un des dangers qui menace l'Église, nos églises, c'est de perdre le sens de la mission que Jésus nous a donnée. Tout à l'heure, après la prédication, d'ailleurs, je vous signale, il y aura un petit temps, justement, d'appropriation, d'échange entre nous. Un des dangers, effectivement, c'est de perdre le sens d'être, de rester tourné vers les autres. On en a parlé un petit peu hier, l'entre-soi, une église saine et missionnaire. De perdre cet aspect un petit peu missionnaire. C'est un des dangers qui guette n'importe quelle église. L'église est une communauté de croyants qui confessent leur foi en Jésus-Christ, mais elle ne doit pas être une communauté fermée. Quelqu'un a dit que l'Église est une institution qui existe pour ceux qui n'en font pas partie. Gardons cela à l'esprit. Et d'ailleurs, le mot « communauté » peut être, à cet égard, piégeux, puisque vous savez que le mot « communautarisme », par exemple, a la même racine, hein, que le mot « communauté ». Le communautarisme qui est une communauté qui vivrait pour elle-même, qui pourrait laisser, le mot communauté même peut laisser penser des fois que la communauté se suffit à elle-même. Et ce n'est absolument pas dans ce sens-là qu'on voudrait utiliser le terme communauté pour parler de nos églises. Jésus, au contraire, nous a commandé de faire des disciples et d'aller vers les nations. Vous connaissez cet ordre missionnaire qui est repris dans plusieurs évangiles, mais dans la version de Matthieu, allez. Faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. À la lecture comme ça de mémoire, quelle est donc la mission que Jésus nous laisse? C'est celle en fait de faire des disciples. Dans nos traductions, nous avons plusieurs impératifs dans cet ordre missionnaire, aller, faire des disciples, baptiser, enseigner, pas simplement enseigner, enseigner à obéir. Mais en réalité, dans le texte grec, nous n'avons qu'un seul impératif, celui de faire des disciples. Et les autres impératifs nous montrent comment. En allant, en baptisant, en enseignant à obéir à tout ce que Jésus nous a prescrit. Donc, comment faire des disciples? Peut-être une des premières façons, c'est en allant. Il faut garder cet esprit missionnaire. Le mouvement de la mission de l'Église est quelque chose qui est, on pourrait dire, centrifuge. On va vers les autres. Je le citais hier déjà, Bonhoeffer, théologien allemand, mort en 1945, proche des évangéliques dans sa théologie, et même allé jusqu'à dire « L'Église n'est Église que lorsqu'elle est là pour les autres. » Petit témoignage, avec l'église baptiste, donc la même union d'église que vous ici à Cavaillon, à Ilkirch, dont j'étais le pasteur pendant 8 années, on a travaillé effectivement sur la vision de l'église en rapport avec un nouveau local qu'on avait acquis, dans lequel on a fait des travaux aussi pour pouvoir nous y installer. Et on a travaillé donc à ce moment-là aussi la vision de l'Église. Et le local de l'Église, il est dans au cœur d'un quartier, dans la petite ville d'Ilkirch, hein, qui est en banlieue de Strasbourg. Quartier assez populaire, avec une grande variété de population, que ce soit des jeunes, des plus âgés, etc. Des Français, on va dire, de souche, des Français d'origine étrangère. Donc une grande diversité, et puis notre local, il est juste à côté, il y a un coiffeur, c'est une ancienne supérette en fait, juste à côté il y a un coiffeur, un donneur kebab, une petite boulangerie, et puis une petite épicerie. Et ce sont donc des commerces qui sont là, des commerces de proximité pour le quartier, et on a eu la vision, la pensée que notre église aussi devait être une église de proximité. Et ça a été un petit peu notre mot d'ordre pour construire notre vision d'église. Une église de proximité. Mais quel défi de communiquer ce qu'on veut être en tant qu'église c'est-à-dire une communauté, mais une communauté accueillante qui est là aussi pour les autres, qui est là pour servir Dieu dans le monde. On a une bonne réputation, souvent, en tant qu'Église. Des fois même, on est content et puis on se dit entre nous, « Ah, on a eu un bon contact avec la mairie, on a demandé une salle, ils nous l'ont donnée, etc. On n'a même pas eu besoin de payer, tout ça. » C'est super. Et les gens autour de nous, sans doute, nous considèrent comme des gens plutôt bien, plutôt sympas. Mais est-ce qu'ils nous considèrent comme étant là pour eux? Et c'est là, peut-être, la difficulté. J'ai des fois entendu, « Ah oui, les chrétiens baptistes, oui, ce sont des vrais chrétiens, ils sont très gentils, ils sont bien. » Mais sous-entendu, ils sont bien entre eux. Et peut-être même, voilà, ils se suffisent à eux-mêmes. Et on n'avait pas la réputation d'être une église qui est là pour les autres. Et ça, c'est un vrai défi. Être une église présente pour le monde dans lequel Dieu nous a placés et pour remplir sa mission. Alors, bonne nouvelle, Dieu donne ce qu'il ordonne. Vous avez déjà entendu peut-être cette petite phrase, hein? Non ? Donc c'est un petit jeu de mots, hein? Bien sûr, Dieu donne ce qu'il ordonne. Et puis bon, certains rajoutent encore, il couronne ce qu'il donne dans sa grâce, dans sa bonté. Ce que Dieu nous donne de faire, hein, les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, ben, quand on les fait, on est encore récompensé. C'est pas juste. Donc Dieu donne ce qu'il ordonne. C'est une certitude. Et nous allons ouvrir la parole de Dieu en Marc, chapitre 4. Et donc ne vous inquiétez pas, je ne vérifie pas si j'ai des messages. Hein. Je regarde la Bible hein, sur mon téléphone. Marc, chapitre 4. Les versets 26 à 29. Et on va découvrir une des certitudes. On en a parlé un petit peu ce matin dans le temps de présidence et le temps de louange. Une des certitudes qui va nous encourager, je l'espère. Le principe de la croissance du royaume de Dieu. Et vous savez que le peuple du royaume de Dieu, ce sont les enfants de Dieu, c'est l'Église. Donc Marc 4. Versets 26 à 29. Jésus dit encore, « Voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il reste éveillé, nuit et jour, la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le grain, tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car c'est le moment de la moisson. » Cette courte parabole contient un élément très important à propos du principe de la croissance. Nous voyons dans ce texte que la croissance est quelque chose que Dieu donne. On a d'autres images, d'autres paraboles. Hein. Vous connaissez cette autre parabole de Jésus hein, qui dit que le royaume de Dieu est comme une toute petite graine hein, de moutarde hein, et puis qui un jour va devenir un grand buisson, un grand arbre. Le royaume de Dieu grandit. Hein, ça, c'est une promesse qu'on a. Et le peuple de ce royaume, c'est l'Église. La croissance est quelque chose que Dieu donne. Qu'on ne peut pas produire, c'est Dieu qui le donne. Le royaume de Dieu grandit comme une graine semée, puis grandit jusqu'à devenir une plante. Et dans ce court passage, il y a un petit mot, début du verset 28, lorsqu'il est dit « elle-même hein, », la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, d'elle-même, hein, d'elle-même. Ce petit mot nous dit beaucoup de choses. En grec, c'est le mot « automaté », qui a donné automatique en français, on pourrait presque traduire automatiquement. La graine grandit, elle a ça dans son ADN. Voilà, Dieu donne la croissance. Nous voyons que la croissance est un principe du royaume de Dieu et de son peuple. La croissance est donnée, et ça c'est une certitude. Nous allons voir cela, ce principe, comment il s'exprime, comment il a été vécu par l'Église dans ses débuts. Car si la croissance est donnée, il peut y avoir malheureusement des freins ou des obstacles à la croissance. Et on va regarder ce qu'a vécu l'Église de Jérusalem, plusieurs temps de l'Église de Jérusalem, donc dans le début du livre des Actes. Alors je vais lire ce texte qu'on aime bien se rappeler, ce qui nous rappelle un petit peu l'essentiel de la vie de l'Église, Actes chapitre 2, versets 42 à 47. Description donc de la vie de l'Église des premiers croyants à Jérusalem. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alors lorsqu'on lit cette description, on a l'impression que c'est vraiment super, que c'est idéal. On verra un peu plus loin hein, dans le texte que l'Église a aussi vécu des difficultés hein, à ce moment-là. Mais effectivement, l'Église se retrouvait de façon très régulière, de façon persévérante. Il se retrouvait chaque jour, d'ailleurs, nous dit ce texte. Hein, ça ne veut pas dire qu'il faut faire pareil, mais chaque jour, le Seigneur aussi ajoutait de nouvelles personnes à l'Église. On voit que ce que Dieu nous demande, finalement, il le donne. C'est le Seigneur qui ajoutait chaque jour de nouvelles personnes à l'Église. La vie de la première communauté des chrétiens à Jérusalem était, on peut dire, vraiment de bonne qualité. Il y avait vraiment une communion très forte. Ils persévéraient dans un certain nombre de choses. Son témoignage aussi était de bonne qualité. Ils avaient la faveur de tout le peuple. Mais si nous allons à peine un petit peu plus loin dans le livre des Actes, nous voyons que les apôtres sont persécutés. Hein. Cela n'a pas enlevé les difficultés à cette Église. Hein. Pourtant, l'Église continue, malgré la persécution, à bien se porter. Elle prie. Elle prie, vous connaissez cette prière dans Acte 4, hein, que le Seigneur leur donne l'assurance d'annoncer la parole de Dieu malgré les menaces qui pesaient sur eux. Je me suis toujours demandé d'ailleurs en lisant ce texte, qu'est-ce que j'aurais prié si j'avais été à leur place. Des fois on prie que Dieu écarte les difficultés plutôt qu'il nous donne le courage de les affronter et de quand même annoncer avec assurance la parole de Dieu. Et cette Église voit Dieu à l'œuvre. L'Évangile continue de se répandre malgré la persécution. Et on a même des paroles très fortes que je vous lis maintenant dans Actes 5, versets 41 et 42. Les apôtres quittèrent le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient pas d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus le Messie. Très fort. Par contre, un problème grave arrive dans cette église. C'est le mensonge d'Ananias et Saphira. Vous le savez, Dieu intervient d'une façon puissante en faisant mourir Ananias et Saphira. Que lit-on juste après cet épisode ? Actes 5, 11 à 14. Juste après cet épisode, on lit « Une grande crainte s'empara de toute l'Église et de tous ceux qui apprirent ces événements. Beaucoup de signes miraculeux et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par l'intermédiaire des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Personne n'osait se joindre à eux, mais le peuple les tenait en grande estime. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. C'est ce dernier verset que je voudrais souligner. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. L'intervention de Dieu était tellement forte que aucun de ceux qui ne croyaient pas, en tout cas, aucun non-croyant n'osait se joindre à l'Église de peur qu'il ne leur arrive peut-être quelque chose de semblable. Mais cela n'empêchait pas que des personnes se convertissaient. On pourrait dire que là, Dieu est intervenu pour régler un problème de façon, c'est vrai, très radicale. Et Luc nous rapporte, qui a écrit le livre des Actes, nous rapporte que la croissance, une fois ce problème réglé, revient. Un des freins à la croissance peut être, ça n'est pas systématiquement le cas, mais le péché. Ça peut être le cas. C'est ce que nous voyons dans ce texte. Il y a ce mensonge, et puis Dieu règle là la situation de façon surprenante, et la croissance revient. Un deuxième obstacle à la croissance est aussi possible, c'est une mauvaise organisation, on pourrait dire. L'Église grandit, hein, et puis en acte 6 surgit un nouveau problème, c'est le problème des veuves de langue grecque qui se plaignent d'être moins bien traitées que les veuves qui parlaient l'hébreu. Et vous savez comment les apôtres ont résolu et trouvé une solution en choisissant avec l'Assemblée des responsables pour distribuer la nourriture de façon équitable pour que eux-mêmes, en tant qu'apôtres et enseignants, ils n'aient pas à se consacrer entièrement à des tâches d'organisation, pour être libre, libéré, pour enseigner la parole et prier, et la prière. C'est pour les deux. Et c'est plus tard ce que Paul appellera dans ses épîtres, ses responsables qui ont donc été chargés de distribuer la nourriture, ce que Paul appellera plus tard dans ses épîtres des diacres, même si le mot là dans le livre des Actes n'y est pas encore. C'était pour que la parole de Dieu ne soit pas délaissée, ni la prière, mais que les apôtres puissent annoncer et consacrer leur temps avec une entière disponibilité à l'enseignement et à la prière. Donc là aussi, un problème qui aurait pu menacer la croissance de l'Église, une solution est trouvée. Et qu'est-ce qui nous est dit juste après? Acte 6, verset 7. La parole de Dieu se propageait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Donc c'est déjà la deuxième fois dans le livre des Actes qu'on voit qu'il y a quelque chose qui peut menacer la croissance de l'Église. Une solution est trouvée et puis la croissance est au rendez-vous. La croissance revient. Ce n'est pas un hasard, je pense, dans la parole inspirée, si nous avons déjà deux fois ce schéma-là. Donc c'était une fois le péché, l'obstacle à la croissance, deuxième fois un manque d'organisation. Mais on a encore un troisième exemple qui vient confirmer ce principe. Il est un peu plus subtil et nous allons sortir légèrement du cadre de l'Église de Jérusalem pour aller dans Acte 11. Acte 11, les versets 19 à 21. Ceux qui avaient été dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, mais ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Cependant, certains d'entre eux, qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, vinrent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-Juifs pour leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. Alors là, c'est une barrière, je disais, un peu plus subtile, un frein un peu plus subtil à la croissance de l'Église, c'était la barrière culturelle. Certains n'annoncent la parole de Dieu qu'aux Juifs, c'est une barrière religieuse, on pourrait dire aussi, qui les bloquait, mais d'autres ont annoncé la parole aux non-Juifs, et le texte nous dit « la main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur ». Certains franchissent donc cette barrière culturelle, religieuse, d'aller vers les non-juifs, Ça représentait un pas important, hein. On sait ce qu'il a fallu à Pierre pour accepter d'aller dans la maison de Corneille, hein, juste le chapitre avant. Toute la vie des Juifs était basée sur la distinction entre le pur et l'impur, et c'était comme cela qu'il fallait vivre. C'était donc compliqué de comprendre, c'était un véritable blocage. Cependant, certains franchissent cette barrière et à nouveau, la croissance revient. Donc par trois fois, on a ce schéma, problème, solution, croissance. Ce n'est pas un hasard dans la parole inspirée. Nous pouvons y voir une application concrète du principe de croissance enseigné dans la parabole que nous avons lue. La croissance, c'est quelque chose que Dieu donne. Il y a peut-être des choses qui bloquent la croissance ou qui freinent la croissance, mais Dieu la donne. C'est Dieu qui produit la croissance. À nous d'enlever peut-être ce qui peut freiner la croissance que Dieu veut nous donner. Et en plus, la croissance bien gérée appelle la croissance, hein, et on peut avoir du coup un cercle vertueux. On parle quelquefois justement du cercle vertueux de la croissance. Ce qui est sain, S-A-I-N, en bonne santé, hein, ce qui est en bonne santé grandit, ce qui grandit change, ce qui change apporte des défis. Les défis nous poussent à faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu nous conduit à lui obéir davantage, et obéir davantage favorise une bonne santé spirituelle, et le cercle recommence comme ça. Deuxième point que j'aimerais donc aborder avec vous, l'importance dans la vie de l'Église du témoignage communautaire. Vous connaissez cette image de Paul que Paul prend pour parler de l'Église, l'image du corps. En tant que chrétien, tout seul, si je témoigne à mon voisin, mon collègue de travail, etc., eh bien, je suis seul. Ce voisin, ce collègue de travail va connaître un chrétien. C'est comme si dans le corps, il voyait un doigt, par exemple. Voilà, mais il ne voit pas le reste. Alors, il dit, oh, c'est un doigt, c'est OK. Mais c'est bien, il est gentil, c'est un bon collègue, etc. Mais il y a quelque chose qui se passe lorsque la personne voit que ce doigt fait partie de tout un corps. Et ça, c'est un témoignage très très fort. La majorité, la grande majorité des conversions ont lieu quand il y a témoignage individuel, certes, mais aussi témoignage communautaire. Il ne faut pas sous-estimer l'importance du témoignage communautaire, du vécu dans nos cultes et nos autres rencontres d'église, dans différentes actions aussi qu'on peut mener en commun. Je me rappelle un jour avoir été dans une église quand j'étais en vacances, et un des anciens de l'église avait raconté son témoignage. J'avais été touché, alors je vous le raconte. C'était quelqu'un qui était dans une période de sa vie pas facile, plutôt triste, et il a, je ne sais pas comment il s'est retrouvé là, il a décidé un dimanche d'aller à l'église. Perdu, un petit peu perdu, il ne savait pas vraiment où il allait mettre les pieds. Il a mis les pieds dans une église évangélique. Il s'est assis tout au fond pour surtout pas être remarqué. Et puis, alors il y a eu des chants, les chants, il a bien apprécié, voir que tout le monde chantait, etc. La prédication, il n'a rien compris. Mais il ressentait des choses, il se passait des choses dans la pièce. Et puis surtout, à la fin du culte, les personnes qui étaient à côté de lui, des personnes d'un certain âge, se sont intéressées à lui. Lui, il était plus jeune à ce moment-là. Et puis, ils lui ont dit, mais comment ça va? Mais vous venez d'où? Etc. On commençait à discuter. Il a ressenti, dans ces échanges, un amour, en fait, et un accueil qu'il n'avait pas vu ailleurs. Et c'est ça qui l'a touché. Et s'est dit, là, je veux... continuer à connaître aussi ces personnes-là. Il vient d'où, là, cet amour que j'ai ressenti. Et cette personne a pu donner, a pu comprendre que cet amour venait de Dieu, a pu donner sa vie au Seigneur, et aujourd'hui, il est toujours dans cette église, et il est ancien de cette église. Autrefois, il y a à peu près une cinquantaine d'années, on se convertissait parce qu'on cherchait la vérité. On se convertissait en lisant la Bible ou en entendant un message d'évangélisation ou par le témoignage d'un chrétien. Puis on recevait ensuite des études bibliques souvent qui étaient faites à domicile. Et puis lorsqu'on était prêt, alors on était conduit à l'église. Aujourd'hui, les parcours sont bien différents. La culture a changé et elle continue de changer. Actuellement, voilà comment se passent les choses en général. On connaît un ami chrétien, on l'apprécie. On est ensuite invité à vivre un temps avec l'église. Ça peut être le groupe de maison, ça peut être le culte, une rencontre de prière, un événement d'évangélisation. Puis on est convaincu de certaines choses, on adhère à des valeurs communautaires. Puis on découvre qu'il faut faire un choix personnel qui engage toute notre vie. Puis on se convertit dans l'église et non plus avant de venir dans l'église, de rejoindre une église. Ce phénomène est observé par ceux qui étudient un petit peu la mission de l'église, les missiologues, depuis une bonne vingtaine d'années déjà. Et c'est ce qu'on voit quelque part aussi un petit peu dans déjà peut-être la vie aussi des premières églises. Hein. Dans Actes 2, 42-47 qu'on a lu tout à l'heure, on voit que c'est la vie de l'église qui est aussi un témoignage. La vie de l'Église est un témoignage en soi. Parce que l'Église est le peuple par lequel Dieu révèle aussi son amour, sa grâce et sa gloire. Depuis Adam et Ève, Dieu se révèle d'abord au peuple d'Israël, puis en Jésus. L'Église qui est le temple de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Jésus, est en elle-même une évangélisation. L'Église a pour vocation de vivre et partager la gloire et la grâce et l'amour de Dieu. Alors une Église missionnaire, des fois vous avez peut-être entendu le terme aussi missionnel, c'est-à-dire qui entre dans la mission de Dieu, est une église où justement chaque activité, chaque département de la vie de l'église est intentionnellement tourné vers l'extérieur en s'attendant à ce que des non-chrétiens soient présents et où les chrétiens aussi engagés reçoivent, et ce n'est pas du tout contradictoire, c'est complémentaire, reçoivent aussi l'équipement nécessaire pour être témoins là où Dieu les a placés, ce qui est nécessaire à leur ministère, notre ministère à chacun, dans le monde, là où Dieu nous a placés. Quelques mots de conclusion, puis après, je vous ai promis un petit temps interactif autour de quelques questions, on aura l'occasion d'échanger un petit peu. Lorsqu'une église est en bonne santé, nous avons des critères pour cela, alors nous avons vitalité, puis nous avons, on en trouve d'autres aussi. Lorsqu'une église est en bonne santé, elle est missionnaire, et elle grandit, car Dieu appelle. Précision quand même à cet endroit, la croissance n'est pas nécessairement toujours évidente au niveau numérique, mais il y a une croissance parce que Dieu appelle. Il y a même un verset qui dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent au salut. Jésus a dit qu'il ne mettrait pas dehors celui qui vient à lui. Alors soyons encouragés à aller de l'avant. Amen. Tant de réactions d'appropriation. Pourquoi, et c'est une question que je nous pose, et puis vous êtes vraiment libre de répondre pour y participer, c'est le but. Pourquoi est-il important qu'une église soit tournée vers les personnes qui n'en font pas encore partie? Pourquoi est-ce important? Oui, alors là tu dis parce que l'Église doit obéir, hein, quelque part, ok?
La croissance. Il n'y a pas de croissance ici.
Oui.
Si c'est un terme.
Pour
qu'il
soit sauvé,
ouais.
Tout simplement.
Oui, pour que des gens aussi connaissent le salut en Jésus. Ouais. Oui.
C'est ce qu'a fait
Jésus-Christ, oui. Avec la notion d'aller à la rencontre des autres, l'incarnation, Dieu lui-même qui vient à la rencontre des hommes. Tu voulais dire quelque chose?
C'est les malades qui ont besoin de docteurs pour aller voir les gens en bonne santé.
Oui. Tout le monde a entendu, C'est les malades qui ont besoin de docteurs, pas les personnes en bonne santé. Oui, parce que l'amour aussi de Dieu nous pousse à partager notre espérance, etc. Alors maintenant, deuxième question. Votre église, ici celle de Cavaillon, est-elle tournée vers les personnes qui n'en font pas encore partie? Si oui, comment le voit-on? Et sinon, que faire pour que cela change? Est-ce que votre église est tournée vers les personnes qui n'en font pas encore partie? Je sais que la réponse c'est oui et non, mais c'est intéressant de se la poser, de voir où effectivement on pourrait se situer sur une échelle. Est-ce que votre église va vers les autres pour présenter l'église, faire connaissance, parler de Jésus en toute simplicité? Est-ce que votre église, notre église, s'adresse aux autres?
Oui et non.
Ah, c'est la bonne réponse. Ouais.
Peut mieux faire,
oui. Peut-être, oui, tout à fait. Toutes les églises pourraient répondre qu'on peut mieux faire.
Les églises en général ne sont pas fermées au fait d'accueillir, ou bien au contraire, mais peut-être qu'on ne sait pas toujours comment faire pour avoir une attitude active en fait pour ça. Donc je pense qu'on est tous d'accord que c'est chouette quand il y a des personnes qui viennent, mais c'est peut-être pas toujours comment faire pour faire venir les autres.
Difficulté à inviter, effectivement, peut-être. Alors ça, c'est le mouvement. De dire aux autres, il existe dans l'évangile, c'est les premiers disciples qui disaient viens et vois, ils avaient découvert Jésus, viens et vois, c'est un des mouvements de l'évangélisation, mais il y a l'autre qui est allons aussi, là où peut-être les personnes n'oseront jamais de leur propre initiative se dire, on va voir qui sont ces chrétiens. Ouais.
C'est peut-être la faute de Dieu parce qu'il ne nous a même pas des non-chrétiens.
Il a fait un jour de nous.
C'est plus facile comme ça.
Et c'est plus facile quand ils viennent que d'aller les chercher. Je pense que quand il y avait le service d'aller au marché toutes les semaines, c'était plus une exposition plus vers l'extérieur. Alors qu'aujourd'hui, quelque part, c'est des nouvelles personnes qui vont arriver, on va dire, pas forcément parce qu'on l'a voulu, mais elles sont venues, quand on dit pas forcément qu'on l'a voulu, est-ce qu'on veut vraiment quelque chose? C'est déjà la question qu'on peut se poser, parce que je pense que Dieu dirige toutes choses pour des choses qu'on pense avoir voulu ou des choses qu'on pense ne pas avoir voulu. Donc c'est compliqué, en fait, de répondre.
Sur la semaine, moi, je suis en contact avec plus de non-chrétiens que de chrétiens.
Oui.
Donc, au final, dans ces cas-là, en fait, le fait de dire d'y aller, de sortir de nous, en fait, on le fait déjà à travers notre travail, à travers l'école, à travers. Sauf que là, c'est plutôt que peut-être on ne saisit pas ces occasions pour être lumière à l'endroit où Dieu nous place. Mais au final, on est déjà en contact avec une multitude de non-chrétiens. Je connais plus de non-chrétiens que de chrétiens qu'avec. Donc dans son, par contre, c'est peut-être des occasions que je ne saisis pas, où je ne me considère pas comme envoyé à ce moment-là, ou en mission à ce moment-là. Je me considère comme salarié de mon entreprise, donc je fais mon job et puis basta. Mais au final, je connais plus de mon quotidien que de chrétien à Cavaillon.
Ah oui, c'est très juste. Quels aspects de la vie communautaire de l'église ici à Cavaillon pourraient être des témoignages visibles pour la ville? Quels aspects de la vie de l'église pourraient être des témoignages visibles pour la ville?
Les jeux de mots de Kevin.
Ah, il faut les afficher alors dans la vitrine alors.
Mettre les miens à côté.
Hein, voilà.
On pourrait être juste dans la proximité de la communauté. On est un peu caché ici.
C'est vrai que pendant un moment, on avait fait un accueil ici.
Oui.
Justement pour les personnes.
Voilà.
Il y a une zone de personnes.
Oui, d'accord.
Il y aura des locaux plus souvent ouverts et
ben, on oublie que c'est
une permanence.
Oui, d'accord.
Parce que le point de Kevin, c'est qu'au-delà de la permanence, après, bon, il n'y a pas non plus 1000 personnes qui passent par jour. Donc,
voilà. Mais il y a aussi la vitrine. Parce qu'à l'époque, justement, il y a des personnes qui s'étaient arrêtées.
Je trouvais que c'était toujours le même verset qui était sur la Bible. Vous avez toujours le même verset.
Jean 3,16 avec le papier.
Ouais. Bah, il existe des fois des calendriers, on peut tourner la page tous les jours, en gros caractère aussi. Hein. Ça peut être une idée. Ouais. La vitrine, donne une certaine image. Nos rencontres, elles sont peut-être visibles de loin, effectivement. Hein. Mais ce que les gens vont voir et ce qui va les toucher, c'est si on s'intéresse à eux. Hein. Si on s'attend à ce que les autres s'intéressent à nous, on n'est plus missionnaire. Hein. Dans ce cas-là, on n'est plus dans cette dynamique-là. Ce qui va toucher les gens, c'est qu'ils comprennent qu'on s'adresse aussi à eux. Si on va vers eux ou non, c'est ça qui va les toucher. Une petite citation que je vous lis maintenant. « C'est en aimant concrètement et en se mettant au service de son prochain que les observateurs, même sceptiques, se rendent compte que l'Église n'est pas au service d'une idéologie ou d'un système religieux. » Dernière question, identifiez-vous des éléments, on en a déjà un petit peu parlé hier, des éléments qui pourraient être des freins à la croissance dans votre Église. Est-ce que vous identifiez, on en a identifié plusieurs là dans le texte des Actes, hein, mais il pourrait y en avoir quantité d'autres. Est-ce que vous identifiez des éléments qui pourraient être des freins dans la croissance de l'Église ? Oui, alors ce témoignage, c'était un témoignage peut-être votre témoignage parce que vous étiez avant dans une autre église, donc les chants, le répertoire n'était pas le même. Par contre, quelqu'un qui ne connaît pas les églises, cette réflexion dans ce cas-là ne serait pas forcément la sienne puisqu'il ne connaît rien, tout serait nouveau pour lui, même les chants anciens, ce serait des nouveaux. Hein.
Après, ici, la culture musicale est différente de la culture du monde.
Oui, oui, ah oui, alors là, oui. Oui, c'est ça la culture musicale, effectivement, oui, c'est sûr que quand on écoute la radio, on n'a plus le même type de musique, etc., oui. Ouais.
Je pense à ce qu'on disait hier sur l'autoritarisme, je veux dire, c'est un frein pour beaucoup de personnes, quand la direction est trop sectaire ou autoritaire.
Oui. Oui, d'accord. Oui. il y a eu, ça a été évoqué aussi tout à l'heure, Anis, tu le disais, la difficulté, hein, justement, peut-être à inviter ou à entrer en contact avec les gens, les occasions à saisir que, dont tu parlais, Paul, hein, sur le, là où on est, hein, tout le reste de la semaine. Peut-être le temps à mettre à part aussi, individuellement ou collectivement, justement, pour cette dimension missionnaire de la vie de l'Église, etc. Tant de choses sur lesquelles nous sommes appelés à travailler et même à changer. Parce que c'est possible, hein. La vie chrétienne, c'est des fois un combat, mais c'est aussi des victoires. Nous avons les moyens, non seulement de lutter contre certaines choses, de combattre le bon combat de la foi, mais aussi de gagner. Que le Seigneur nous bénisse, vous bénisse.